Europe 1.
Place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui, François, avec Ishak Diwan, professeur à la chaire socio-économie du monde arabe à Paris Sciences et Lettres. Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris et spécialiste du Moyen-Orient. Et vous pouvez aussi vous poser vos questions et réagir au 39-21.
Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Bonsoir Ishak Diwan.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être ce soir en direct sur Europe 1. Beaucoup d'auditeurs s'interrogent et veulent comprendre, tous émus par la tragédie qui est en train de vivre Beyrouth. Frédéric Ancel, beaucoup ont dit cette explosion sur le port due pour le moment, c'est l'hypothèse qui prévaut, mais elle semble claire, un accident industriel. Son souffle est en train de balayer un système politique corrompu. Est-ce que vous êtes sur cette ligne? Est-ce que vous confirmez cette thèse, Frédéric Ancel?
Oui, je la confirme avec une certaine prudence, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on annonce la fin de ce système confessionnel, constitutionnellement confessionnel, issu du pacte national de 1943. On l'avait annoncé lors de la guerre civile terrible et très longue de 1975-91, puis lors des accords de Taif qui avaient suivi cette guerre, puis lors de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, et à chaque fois, et puis bien sûr au milieu des années 80, lorsque des millions de Libanais, et notamment la jeunesse libanaise, était descendue dans la rue pour tenter de convaincre l'État de mettre fin, enfin le régime politique, de mettre fin à ce système confessionnel corrompu par définition, et à chaque fois on se dit « ça y est ». Et le problème, c'est que, par définition, ceux qui sont au pouvoir et qui profitent de ce système, ils n'ont pas tellement envie de le lâcher comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il faut être prudent. Cela dit, le coup porté par cet accident industriel qui, alors vous avez raison, en tout cas c'est aussi mon hypothèse, je pense qu'il s'agit véritablement d'un accident de nature industrielle, mais tout de même lié vraisemblablement à des décisions parfaitement aberrantes en termes de sécurité civile. Je pense que ça peut, vis-à-vis de la population d'une part, mais également des pays pourvoyeurs, donateurs, contributeurs du Liban d'autre part, ça peut quand même créer quelque chose de nouveau, une sorte d'électrochoc. Et je dois dire, pour finir, que Emmanuel Macron, qui a tenu des propos pratiquement révolutionnaires dans leur volontarisme cet après-midi, exprime, je crois, cette volonté et en même temps ce ras-le-bol à la fois de la population libanaise, mais également, je le répète, d'un certain nombre d'États amis du Liban.
Alors écoutez, vous évoquiez à l'instant même, Frédéric Ancel, ces propos d'Emmanuel Macron, et avant de donner la parole à Ishak Diwan, on va les réécouter.
Cette aide, elle sera transparente, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption.
Monsieur le Président, nous avons besoin de votre aide. Nous réclamons une tutelle internationale. C'est fini avec cette classe politique pourrie. Nous en avons assez. Ils ont ruiné le pays, ils nous ont tués hier.
Alors Ishak Diwan, il est harcelé par la foule Emmanuel Macron cet après-midi, une foule pleine de rage. Il promet que cette aide internationale va être contrôlée parce que le système, de fait, n'est plus capable aujourd'hui de le tenir et de le gérer dans le pays.
Oui, le président Macron fait sa conférence de presse en ce moment. Tous les Libanais l'écoutent plein d'espoir. Le pays se débat dans ce besoin de changement politique qui n'arrive pas à trouver une voie, une issue, et qui est maintenant alimentée par cette colère immense et les espoirs que le président Macron apporte aujourd'hui après ce désastre d'il y a deux jours. Il est clair que les Libanais ont besoin d'une aide humanitaire urgente, mais il est aussi clair qu'ils ne veulent surtout pas que cette aide profite à ce régime politique pour qu'il puisse survivre un peu plus longtemps, éviter les réformes, éviter de confronter les conditions nécessaires du Fonds monétaire pour changer la façon dont le pays est organisé. Et il ne faut surtout pas laisser cette bouffée d'oxygène qui vient réparer le grand malheur du peuple, leur donner le moyen de recréer un clientélisme qui les laisse au pouvoir plus longtemps.
Qui a été, Ishak Diwan, le clientélisme qui a fleuri, qui s'est épanoui sur la reconstruction de Beyrouth post-guerre civile, ces 15 ans de guerre civile qu'évoquait Frédéric Ancel. Nous avons, messieurs, une première question d'un auditeur et on va pouvoir revenir à ce qui est l'essence, je pense, du système libanais. C'est Gérard qui nous appelle du département de l'Allier. Bonsoir Gérard.
Bonsoir François Claude. Bonsoir Grandbois.
Nous écoutons votre question, Gérard.
Eh bien, je crois que Frédéric Ancel a répondu déjà à ma question. Je voulais savoir si le système entre les trois religions chiites, maronites et druzes n'était pas la cause principale du blocage actuel de ce pays. Et je crois que Frédéric Ancel y a bien répondu. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est que le Liban connaisse maintenant la laïcité.
Ça va être compliqué, mais enfin c'est une piste. Frédéric Ancel, votre réponse, on rappelle que les accords de Taïf donnaient une partie du pouvoir aux chrétiens maronites, une partie du pouvoir aux musulmans sunnites et une partie du pouvoir, notamment la direction du Parlement, aux musulmans chiites. Un Liban laïque serait la solution et est-ce envisageable?
Alors, c'est la question centrale. Alors si je peux me permettre, les accords de Taïf donner surtout modifier effectivement dans le sens en principe d'une certaine rationalisation, modifier le système, mais en réalité c'était un accord des vainqueurs. Cela s'est fait sous l'égide de l'Arabie Saoudite, mais en réalité le Hezbollah qui a été créé par l'Iran en 1982 et qui aujourd'hui est le seul groupement confessionnel à la fois surarmé et politiquement extrêmement puissant au point qu'il est bien plus puissant que l'État libanais lui-même, n'en a pas tiré les conséquences et aujourd'hui c'est cette mouvance et ce parti qui domine littéralement la vie politique sécuritaire du pays, contre les accords même de Taïf. Maintenant, le système du pacte national établi en 1943, mais en réalité des années 30, il comporte un paradoxe assez amer, c'est que c'est la Troisième République française, la laïque, la centralisée, quelque part l'agnostique, voire l'athée, qui a créé ce bazar. C'est-à-dire que on a fait semblant de tenir compte de la structure effectivement très très mosaïque de la société du Levant. Et à l'époque, c'est à la fois la Syrie et le Liban. Le Liban n'a jamais été indépendant avant 1943. Bien. Et en réalité, il s'agissait de diviser pour mieux régner, de compter sur une minorité très francophile et francophone qui était à l'époque les chrétiens maronites. Bon. Mais à partir des années 70, on a bien vu que ça ne fonctionnait plus, et en tout cas, certainement pas au profit de l'ensemble des Libanais, des citoyens libanais, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je conclurai en étant parfaitement d'accord avec la question de votre auditeur. Bien sûr, ce serait l'idéal, mais encore une fois, prudence, parce que ceux qui profitent de ce système-là, par définition,
ne vont pas lâcher facilement. Ishak Diwan, vous pensez qu'un Liban laïque, c'est ce qu'il y a derrière cette phrase qu'a employée Emmanuel Macron en arrivant, qu'il est nécessaire de créer un nouveau pacte politique au Liban?
La majorité de la population a bien vu et comprend très bien maintenant que c'est la seule voie. Il faut dire, pour ajouter à l'explication qui a été donnée, qui est excellente, que le système communautaire est devenu, ne marchait plus à partir de 2011, quand les tensions régionales ont augmenté. Il a fallu que tous ces chefs de guerre se regroupent dans des gouvernements de coalition qui ne pouvaient plus prendre aucune décision et qui donc n'ont pas pu éviter les écueils, aussi bien financiers, monétaires que sécuritaires qui faisaient face au Liban et qui nous amenaient maintenant au gouffre, aussi bien l'effondrement économique que cette explosion nucléaire qui a eu lieu hier à Beyrouth.
Qui a été vécu tel quel. Et vous sentez émerger, Ishak Diwan, une nouvelle classe politique, une nouvelle génération politique qui pourrait incarner au Liban ce nouveau pacte laïque?
Il faut espérer. Il y a beaucoup de mouvements dans les rues de jeunes qui s'organisent, qui commencent à former des groupes, qui commencent à se fédérer, qui commencent à discuter de programmes politiques et de transition. C'est là que ça peut se passer. Ce n'est que de l'intérieur que le changement politique peut se faire. C'est vrai que c'est un régime très enraciné dans la société et très difficile à déplacer. Mais le gouffre dans lequel on est une occasion historique pour le faire.
Un très grand mal pour peut-être un futur bien. Il y a également les difficultés, et peut-être que le système politique nouveau qui émergerait aurait du mal à s'y adapter, les données de la crise économique, tout simplement, Frédéric Ancel, qui sont là. Le Liban est aujourd'hui ruiné.
Oui, le Liban est ruiné, et là encore, il y a un paradoxe stupéfiant. La jeunesse libanaise est dotée d'un niveau de formation grâce à un système socio-culturel extrêmement et socio-éducatif extrêmement performant. Cette jeunesse est l'une des mieux formées de l'ensemble du Moyen-Orient. Et précisément parce que cette classe politique en dessous de tout, je ne dis pas que chacun de ses membres est en dessous de tout, mais sur la classe politique de manière générale, et cet État dont on parle depuis tout à l'heure, est incapable de fournir du travail à ces jeunes gens très bien formés, eh bien, il y a une hémorragie des cerveaux, une hémorragie démographique très importante depuis au moins les années 70. Ce qui fait qu'en Australie, au Canada, en France, ailleurs, vous avez de très fortes minorités, enfin, vous avez une diaspora en quelque sorte libanaise qui reste profondément attachée sur le plan affectif au Liban, mais qui travaille et par conséquent qui apporte en quelque sorte aux autres pays, mais pas
suffisamment au Liban, oui.
Pas suffisamment au Liban.
Je vous propose.
Pardonnez-moi juste.
Allez-y.
Juste très rapidement. Quant à la ruine, vous savez, le Liban a été qualifié de Suisse du Moyen-Orient dans les années 60-70. Pourquoi ? Parce que le système bancaire tenait debout. Mais le problème, c'est que le système bancaire a tenu lieu d'économie de manière générale. Et aujourd'hui, qu'il est, pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir, qu'il est très largement effondré, eh bien on s'aperçoit que le Liban, en quelque sorte, ne produisait ou ne produit quasiment rien, et qu'il s'agissait d'une espèce de rente qui n'a évidemment pas suffi à enrichir le pays.
Alors nous avons justement, messieurs, une question qui nous parvient du département des Yvelines. C'est Alain qui nous appelle. Bonsoir Alain.
Bonsoir les grandes voix.
Merci d'être sur Europe 1 avec nous ce soir. Nous vous écoutons Alain.
Et voilà, moi, je voulais précisément évoquer le sujet de la diaspora, parce que, sauf erreur, il doit y avoir plus de deux fois plus de Libanais vivant hors Liban qu'à l'intérieur des frontières. Or, ces gens, moi j'en ai rencontré beaucoup, j'en ai connu beaucoup, sont très attachés à leur pays, reviennent en vacances, envoient de l'argent. Ne pourrait-on imaginer que, face à une situation aussi grave, aussi difficile, certains d'entre eux puissent jouer un rôle dans la recomposition du paysage libanais. Je pense à des personnalités fortes, à la Carlos Ghosn et d'autres peut-être.
Alors à la Carlos Ghosn, vous ne prenez peut-être pas la meilleure, mais pour vous donner un exemple, le patron du principal transporteur par mer, la CMA, l'ex-CMA CGM, Rodolphe Saadé, libanais, installé à Marseille, a mis à disposition des avions privés dès hier soir pour assurer un acheminement. Isaac Diwan, la diaspora venant en aide au Liban, j'allais dire à court terme sur l'humanitaire, c'est un geste quasiment naturel. À plus long terme, comme l'expliquait Frédéric Ancel, c'est peut-être plus compliqué.
La diaspora se mobilise depuis avant-hier pour essayer d'aider, pour aider sur le terrain. Mais je dirais même à plus long terme, c'est un élément essentiel de la reconstruction du Liban. Il faut bien se rendre compte que tout est à reconstruire. Tous les piliers du pays se sont écroulés. La classe moyenne est détruite. Le secteur privé est en faillite. Les banques sont en faillite. L'État aussi. La stabilité monétaire a disparu. Les relations régionales et internationales se sont énormément dégradées. L'éducation, dont parlait mon collègue, la santé, sont en très mauvaise santé, en déséquilibre. L'État a des dettes énormes envers ses institutions. Heureusement que la France va financer pendant un an des écoles francophones pour permettre aux étudiants, une centaine de milliers d'étudiants, de continuer à s'éduquer. La pauvreté, on parle de 50% de la population, 40% de chômage. Tous les piliers du Liban se sont écroulés, il y a énormément à reconstruire, ça passe par un changement politique au départ, et cette reconstruction ne pourra pas se faire sans une aide, sans une implication très profonde de sa diaspora. Il faut reconstruire une économie non pas nationale, mais quasiment multinationale, qui serve et qui est servie par la diaspora. C'est ça la force du Liban, et c'est ça qui lui permettra de se remettre sur pied.
Frédéric Ancel, l'ampleur du chantier qu'évoquait Ishak Diwan à l'instant donne des frayeurs. Est-ce qu'on peut risquer au Liban un très fort exil comme celui qui avait eu lieu à la fin de la guerre civile et qui a eu lieu aussi peut-être après 2006 lorsque le Hezbollah, après ce qu'il qualifiait de victoire contre Israël, a quasiment pris les rênes du pays?
Oui, la réponse est oui. Oui, c'est d'ailleurs ce que je crains. Enfin, je le crains, mon Dieu, je respecte infiniment la volonté de beaucoup de Libanais, jeunes et moins jeunes, de quitter le pays. Et je pense que ça va ne faire que ce qui vient de se produire, cette tragédie, ne va qu'accentuer cette volonté. Il y a d'abord des facilités dans beaucoup de pays d'Occident, par la puissance de cette, et par la puissance également quantitative de cette diaspora. Il y a de nombreuses facilités offertes aux Libanais pour quitter le pays, et je pense que beaucoup, effectivement, risquent de faire ce choix. Sur la diaspora, ce qui a été dit est extrêmement juste. Je prendrai deux éléments comparatifs tout à fait passionnants. D'abord, la diaspora arménienne vis-à-vis de la République d'Arménie, qui elle aussi, dans le Caucase, s'est trouvée et se trouve confrontée à des problèmes géopolitiques et économiques extrêmement graves. La diaspora juive, alors avant et au début de l'État d'Israël notamment, prenez aujourd'hui en Afrique le cas de la diaspora rwandaise, on a à chaque fois quelque chose d'extrêmement, d'affectivement très important, mais qui doit se traduire par des gestes économiques tout à fait concrets. Cela dit, si je peux me permettre...
Allez-y, ce sera le mot de la fin pour vous, Frédéric Ancel.
Tel ou tel monsieur, tel ou tel madame appartenant à la diaspora libanaise pourra bien offrir une partie de son portefeuille ou de ses biens en faveur de mouvements caritatifs libanais. Ça ne suffira pas à modifier fondamentalement les piliers de cette économie en ruine.
On l'a compris, effectivement, et merci messieurs d'avoir été aussi pédagogues. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à ce débat, Gérard et Alain, que nous avons pris à l'antenne. Les excuses à ceux que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne. En tout cas, Ishak Diwan, professeur à la chaire Monde Arabe à Paris Sciences et Lettres, la faculté, merci pour vos réponses. Et à Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po. Et vous étiez, on l'a compris, tous les deux de grands spécialistes du Proche-Orient. Voilà pour les grandes voix de ce soir et nul doute qu'on reparlera du Liban sur Europe 1 dans les prochaines heures et prochains jours.